Chapitre 15. L'homme était de petite taille, avec un corps tout en muscles, des cheveux rares et décolorés par le soleil. Quand il ouvrit la porte, il l'examina de la tête aux pieds, la jaugeant sans merci, puis il sourit et dit « Entrez, mon bureau est au sous-sol. » Elle sentit sa peau se hérisser, un sentiment de gêne l'envahir. Il y avait quelque chose de vénal dans ce visage aux lèvres minces. Il avait l'air d'un homme au goût dépravé. « Je suis un type débordé de boulot », lui dit-il, indiquant d'un geste une chaise dans son bureau encombré qui dégageait une odeur d'humidité. « C'est ce que j'ai compris en lisant l'annonce », dit Ifemelu. « Assistante personnelle pour entraîneur sportif très occupé. Compétences en communication et relations personnelles requises. » Elle s'assit sur la chaise, s'y percha plutôt, songeant soudain qu'après avoir lu une annonce dans le City Paper, elle se retrouvait seule en présence d'un inconnu, dans le sous-sol d'une maison inconnue en Amérique. Les mains enfoncées dans les poches de son jean, il allait et venait à courtes enjambées rapides, disait qu'il était un entraîneur de tennis extrêmement demandé, et Ifemelu se dit qu'il risquait de trébucher sur les piles de magazines sportifs entassées sur le sol. Le regarder lui donnait le tournis. Il parlait aussi vite qu'il bougeait, l'air bizarrement sur le qui-vive. Ses yeux restaient grands ouverts et sans ciller pendant trop longtemps. Voilà la proposition. Il y a deux jobs, l'un de secrétaire, l'autre d'assistante de relaxation. Le secrétariat est déjà pourvu. La secrétaire a commencé hier, elle étudie à Bryn Mawr. Et elle passera la semaine à mettre de l'ordre dans tout le retard qui s'est accumulé. Je suis sûre que j'ai des chèques qui traînent quelque part. Il fit un geste vers le désordre de son bureau. « Maintenant, ce qu'il me faut, c'est quelqu'un qui m'aide à me relaxer. Je vous paierai $100 par jour, avec la possibilité d'une augmentation, et vous travaillerez à la demande sans horaire fixe. » $100, presque suffisant pour payer son loyer mensuel. Elle se déplaça un peu sur sa chaise. « Qu'entendez-vous exactement par « aider à me relaxer » ?» Elle l'observait, attendant ses explications. Elle commençait à s'impatienter à la pensée de l'argent qu'elle avait dépensé pour le billet du train de banlieue. « Écoutez, vous n'êtes pas une gamine, » dit-il. « Je travaille tellement que je n'arrive pas à dormir. Je ne prends pas de médicaments. C'est pourquoi je me suis dit que j'avais besoin d'aide pour me détendre. Vous pouvez me faire un massage, vous comprenez, m'aider à me décontracter. J'avais quelqu'un qui le faisait, mais elle vient de partir à Pittsburgh. C'est un super job. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait. Ça l'a aidé à rembourser une bonne partie de son prêt pour ses études. » Il l'avait dit à beaucoup d'autres filles, c'était évident, vu la désinvolture avec laquelle il prononça ces mots. Il n'était pas sympathique. Elle ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire, mais de toute façon, elle regrettait d'être venue. Elle se leva. « Puis-je réfléchir et vous téléphoner ?»«
Bien sûr. »
Il eut un haussement d'épaule, empreint d'une brusque impatience, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle ne saisisse pas la chance qui s'offrait à elle. Quand il la raccompagna, il ferma rapidement la porte, sans répondre à son merci final. Elle regagna la gare à pied, regrettant le prix du billet. Les arbres resplendissaient, leur feuillage rouge et jaune teintait l'air d'une lumière dorée, et elle se rappela ces mots qu'elle avait récemment lus quelque part. Le premier vers de la nature est d'or. L'air vif, parfumé et sec, éveilla en elle le souvenir de Nsuka durant la saison de l'Harmattan, déclenchant une nostalgie si soudaine et si profonde que ses yeux s'emplirent de larmes. Chaque fois qu'elle se rendait à un entretien d'embauche ou passait un coup de téléphone pour un emploi, elle se disait que cela finirait par être son jour. Cette fois, cette place de serveuse, hôtesse, babysitter serait pour elle. Pourtant, à peine avait-elle formulé ce vœu que le découragement s'accumulait déjà dans un recoin reculé de son esprit. « Qu'est-ce que je fais de travers ?» demandait-elle à Guinica, et Guinica lui disait d'être patiente, d'espérer. Elle tapait et retapait son curriculum vitae, s'inventait une expérience passée de serveuse à Lagos, inscrivait le nom de Guinica comme employeur dont elle avait été la babysitter des enfants, donnait le nom de la propriétaire de Wambui comme référence, et à chaque rendez-vous, Elle souriait chaleureusement, serrait les mains avec fermeté, toute chose suggérée dans un livre qu'elle avait lu à propos des entretiens d'embauche en Amérique. Mais il n'y avait pas de job. Était-ce son accent étranger? Son manque d'expérience? Pourtant, ses amies africaines avaient toutes du travail, et les étudiants décrochaient sans cesse des boulots sans avoir d'expérience. Un jour, elle alla dans une station-service près de Chestnut Street, et un grand Mexicain lui dit, les yeux rivés sur sa poitrine, « Vous venez pour le job de pompiste? Vous pourriez travailler pour moi d'une autre façon ?» Puis, avec un sourire, le regard toujours concupiscent, il lui dit que la place était prise. Elle commença à penser de plus en plus au diable de sa mère, à imaginer que le diable se mêlait de tout ici. Elle faisait des additions et des soustractions, évaluant ce qui lui était nécessaire ou pas, cuisait du riz et des haricots chaque semaine, qu'elle faisait réchauffer par petites portions dans le four à micro-ondes pour le déjeuner et le dîner. Obinze proposa de lui envoyer de l'argent. Son cousin était venu le voir de Londres et lui avait donné quelques livres. Il les changerait en dollars à Enugu. « Comment pourrais-tu m'envoyer de l'argent depuis le Nigeria ? Ce devrait être l'inverse, » dit-elle. Mais il le lui envoya quand même, un peu plus de 100 $, soigneusement enfermé dans un morceau de carton. Guinika était très occupée. Elle passait de longues heures à travailler dans le cadre de son stage et à réviser pour ses examens de droit, mais elle appelait souvent Ifemelu pour s'enquérir de ses recherches, gardant toujours un ton optimiste, comme pour l'inciter à ne pas perdre espoir. Cette femme avec laquelle j'ai fait un stage dans son organisation caritative, Kimberly, m'a appelée pour me dire que sa babysitter partait et qu'elle cherchait à la remplacer. Je lui ai parlé de toi et elle aimerait te rencontrer. Si elle t'engage, elle te paiera en liquide et tu n'auras pas besoin d'utiliser un faux nom. À quelle heure termines-tu demain? Je peux passer et t'emmener chez elle pour un entretien. Si j'obtiens ce job, je te donnerai mon premier mois de salaire, dit Ifemelu, et Guinika rit. Guinika gara sa voiture dans l'allée circulaire d'une maison qui affichait son opulence, avec sa façade de pierre massive et imposante et ses quatre colonnes se dressant solennellement à l'entrée. Kimberly ouvrit la porte. Elle était mince et élancée, levait les bras pour ramener en arrière ses lourds cheveux dorés à deux mains, comme si une seule n'aurait pu parvenir à apprivoiser une telle masse. « Ravie de vous rencontrer !» dit-elle à Ifemelu avec un sourire tout en lui tendant une petite main osseuse, frêle. Dans son pull doré, ceinturé sur une taille incroyablement fine, avec ses cheveux dorés, ses ballerines dorées, elle semblait irréelle, comme la lumière du soleil. « Voici ma sœur, Laura, qui est venue me rendre visite. En réalité, nous nous voyons presque tous les jours. Laura habite pratiquement à côté. Les enfants sont dans les Poconos jusqu'à demain avec ma mère. J'ai pensé qu'il valait mieux nous rencontrer quand ils n'étaient pas là de toute façon. « Bonjour, » dit Laura. Elle était aussi mince, élancée et blonde que Kimberly. Pour les décrire à Obinze, Ifemelu dirait que Kimberly ressemblait à un petit oiseau à l'ossature légère, facile à briser, tandis que Laura faisait penser à un faucon, au bec recourbé et à l'humeur sombre. « Bonjour, je m'appelle Ifemelu. »« Quel beau nom !» dit Kimberly. « Est-ce qu'il signifie quelque chose de particulier ?»« J'adore les noms multiculturels parce qu'ils ont des significations merveilleuses, venant de cultures merveilleusement riches. » Kimberly avait le sourire bienveillant des gens qui voyaient dans la culture l'univers inhabituel et coloré des gens de couleur, un mot qui devait toujours être accompagné de « riche ». Elle ne pensait pas que la Norvège est une culture riche. « J'ignore ce qu'il signifie, » répondit Ifemelu, et elle devina plutôt qu'elle ne vit un petit air amusé sur le visage de Guinika. « Voulez-vous un peu de thé ?» demanda Kimberly en les introduisant dans une cuisine rutilante, toute de chrome et de granit, avec un grand espace vide au milieu. « Nous sommes des buveurs de thé, mais vous pouvez choisir autre chose, naturellement. » « Du thé sera parfait pour moi, » dit Guinika. « Et vous, Ifemelu ? Je sais que j'écorche votre nom, mais c'est un beau nom, vraiment beau. »« Non, vous l'avez prononcé correctement. Je veux bien de l'eau ou du jus d'orange, s'il vous plaît. » Ifemelu se rendrait compte plus tard que Kimberly utilisait le mot « beau » d'une manière particulière. « Je vais voir ma belle amie avec laquelle j'étais à l'université », disait-elle par exemple, ou « Nous travaillons avec une très belle femme au projet du centre-ville ». Et les femmes en question se révélaient tout à fait ordinaires, mais toujours noires. Un jour, plus tard dans l'hiver, alors qu'elle était assise avec Kimberly à l'énorme table de la cuisine, à boire du thé, en attendant que les enfants reviennent d'une promenade avec leur grand-mère, Kimberly dit « Oh, regardez cette belle femme !» Et elle désigna un simple mannequin dans un magazine, dont la seule particularité était d'avoir la peau très sombre. N'est-elle pas étonnante ?
Non, pas vraiment.
Ifemelu marqua une pause.
Vous savez, vous pouvez simplement dire noir. Tous les noirs ne sont pas beaux.
Kimberly fut décontenancée. Quelque chose d'indistinct se répandit sur son visage, puis elle sourit. Et Ifemelu penserait par la suite que c'est à ce moment-là qu'elles étaient devenues amies. Mais dès ce premier jour, Kimberly lui plut, avec sa beauté fragile, ses yeux violets emplis de cette expression qu'Obinze utilisait souvent pour décrire les gens qu'il aimait. Obi Ocha, un cœur clair. Kimberly questionna Ifemelu sur son expérience des enfants, l'écoutant attentivement, comme si ce qu'elle voulait entendre était peut-être ce qui n'était pas dit.
Elle n'a pas de brevet de secouriste, Kim, dit Laura.
Elle se tourna vers Ifemelu. Acceptez-vous de le passer ? C'est très important si vous devez vous occuper d'enfants.
Je le passerai.
Ginika a dit que vous avez quitté le Nigeria parce que les professeurs de l'université étaient constamment en grève. C'est vrai ?
Demanda Kimberly.
Oui.
Laura hocha la tête d'un air entendu.
C'est affreux ce qui se passe dans les pays africains.
Comment trouvez-vous les États-Unis jusqu'à présent ? Demanda Kimberly. Ifemelu lui raconta le vertige qui l'avait saisi la première fois qu'elle était allée au supermarché. Au rayon des céréales, elle avait voulu acheter des cornflakes qu'elle avait l'habitude de manger en Afrique, mais soudain confrontée à une centaine d'emballages différents, dans un tourbillon de couleurs et d'images, elle s'était sentie mal. Elle racontait cette histoire parce qu'elle la trouvait drôle. Elle flattait innocemment l'ego américain.
Laura rit. Je comprends que vous ayez pu avoir le tournis.
Oui, nous sommes adeptes de l'excès dans ce pays, dit Kimberly. Je suis certaine que vous mangiez de merveilleux produits biologiques et des légumes chez vous, mais vous vous apercevrez que c'est différent ici.
Kim, si elle mangeait toute cette merveilleuse nourriture biologique au Nigeria, pourquoi serait-elle venue en Amérique ?
Demanda Laura. Dans leur enfance, Laura avait probablement joué le rôle de la grande sœur qui soulignait la sottise de la petite. Toujours avec gentillesse et bonne humeur, et de préférence devant des parents adultes.
Bon, même s'il n'avait que peu de nourriture, je dis qu'il s'agissait sans doute de légumes bio, pas de ces cochonneries que nous avons ici, dit Kimberly.
Ifemelu sentit flotter entre elles quelques épines acérées.
Tu ne lui as pas parlé de la télévision, dit Laura. Elle se tourna vers Ifemelu. Les enfants de Kim ne regardent que les programmes pour les enfants, et seulement sur la chaîne publique. Si elle vous engage, il faudra donc que vous soyez toujours présente et que vous contrôliez tout ce qui se passe, notamment avec Morgan.
Très bien.
Je n'ai pas de babysitter, continua Laura, son « je » empreint d'autosatisfaction. Je suis une maman à plein temps qui met la main à la pâte. J'ai songé à reprendre mon activité quand Athéna a eu 2 ans, mais je n'ai pas supporté de l'abandonner. Kim s'implique, elle aussi, mais elle est parfois très prise. Elle accomplit une tâche formidable avec son organisation caritative. C'est pourquoi je me soucie des babysitters. La dernière, Martha, était merveilleuse, mais nous nous sommes demandé si celle qui était là avant elle, j'ai oublié son nom, ne laissait pas Morgan regarder des émissions qui n'étaient pas pour elle. Ma fille ne regarde jamais la télévision. Il y a trop de violence, à mon avis. Je la laisserai peut-être regarder quelques dessins animés quand elle sera plus grande.
Mais il y a aussi de la violence dans les dessins animés, dit Ifemelu. Laura eut l'air agacée.
Ce sont des dessins animés. C'est la réalité qui traumatise les enfants.
Ginika lança un bref regard à Ifemelu avec un froncement de sourcils qui signifiait « N'insiste pas !» Quand elle était à l'école primaire, Ifemelu avait vu le peloton d'exécution fusiller Lawrence Anini.
Elle était fascinée par la mythologie qui entourait ses attaques à main armée, les lettres qu'il écrivait aux journaux, la façon dont il nourrissait les pauvres avec ses butins, disparaissait comme par miracle quand la police arrivait. Sa mère avait dit « Rentre à la maison, ce n'est pas pour les enfants ». Mais elle l'avait dit sans conviction, alors qu'Ifemelu avait déjà vu la plus grande partie de l'exécution. Le corps d'Anini, sommairement attaché à un poteau, tressautant au moment où les balles l'atteignaient, avant de s'affaisser contre les cordes entrecroisées. Elle y repensait en ce moment, vision obsédante et pourtant ordinaire.
« Je vais vous montrer la maison, Ifemelu, » dit Kimberly. « Ai-je prononcé votre nom correctement ?»
Elles passèrent d'une pièce à l'autre. La chambre de la fille avec des murs roses et un couvre-lit à franges, celle du fils avec une batterie, le bureau où trônait un piano, dont le couvercle de bois verni était encombré de photos de famille.
« Nous avons pris celle-ci en Inde, » dit Kimberly.
Il se tenait à côté d'un rickshaw vide, en t-shirt. Kimberly avec sa chevelure dorée attachée en queue de cheval, son mari grand et maigre, leur petit garçon blond et leur fille plus âgée aux cheveux roux, tous avec une bouteille d'eau à la main, le sourire aux lèvres. Ils souriaient toujours sur les photos, qu'ils fassent de la voile ou de la randonnée, visitent des lieux touristiques, se tenant ensemble, silhouettes souples et dents blanches. Ils évoquaient pour Ifemelu l'image de ces publicités à la télévision, de gens dont la vie apparaissait toujours sous un jour flatteur, dont même le désordre restait esthétiquement plaisant.
Certaines des personnes que nous avons rencontrées n'avaient rien, littéralement rien, mais elles étaient si joyeuses,
dit Kimberly. Elle prit une photo sur le piano de sa fille en compagnie de deux indiennes à la peau sombre et tannée, leur sourire découvrant des dents manquantes.
Ces femmes étaient si merveilleuses, dit-elle.
Ifemelu apprendrait également que pour Kimberly, les pauvres étaient irréprochables. La pauvreté avait un éclat particulier. Elle ne concevait pas qu'un pauvre puisse être brutal ou méchant, parce que leur pauvreté les canonisait, et les plus grands saints étaient des pauvres.
Morgan l'adore, c'est amérindien, mais Taylor dit qu'elle fait peur.
Elle montrait une petite sculpture au milieu des photos.
Oh !
Soudain, Ifemelu ne se rappela plus qui était le garçon et qui était la fille. Pour elle, Morgan et Taylor ressemblaient à des noms de famille. Le mari de Kimberly rentra peu avant le départ d'Ifemelu.
« Bonjour, bonjour »
dit-il en pénétrant dans la cuisine sans bruit, grand, bronzé, empressé. Ses cheveux mi-longs, dont les parfaites ondulations frôlaient son col, dénotaient aux yeux d'Ifemelu le soin extrême qu'il en prenait.
« Vous devez être l'ami nigériane de Guinica, » dit-il en souriant, débordant de confiance en son propre charme.
Il regardait les gens dans les yeux non parce qu'il s'intéressait à eux, mais parce que c'était une façon de le leur faire croire. Après son arrivée, Kimberly devint légèrement fébrile. Sa voix changea. Elle parlait à présent avec les inflexions aiguës d'une femme manquant d'assurance.
« Donne, chérie, tu es en avance ?»
dit-elle quand ils s'embrassèrent. Don regarda fixement Ifemelu et lui dit qu'il avait failli aller au Nigeria après l'élection de Shagari, quand il était consultant pour une agence internationale d'aide au développement. Mais le voyage avait été annulé au dernier moment, à sa grande déception, parce qu'il avait espéré pouvoir écouter Fela Kuti dans son club, le Shrine. Il mentionna Fela naturellement, d'un ton familier, comme s'il s'agissait de quelque chose qu'ils avaient en commun, un secret qu'ils partageaient. Il y avait dans son discours une tentative de séduction. Ifemelu le regarda sans dire grand-chose, refusant d'être pris au piège, se sentant étrangement triste pour Kimberly. Avoir sur les bras une sœur comme Laura et un mari comme lui.
Don et moi sommes impliqués dans une très bonne organisation humanitaire au Malawi. En réalité, Don est beaucoup plus impliqué que moi.
Kimberly se tourna vers Don, qui fit une moue moqueuse et dit « Bon, nous faisons ce que nous pouvons, mais nous savons très bien que nous ne sommes pas le Messie. »
« Nous devrions vraiment organiser un voyage pour leur rendre visite. C'est un orphelinat. Nous ne sommes jamais allés en Afrique. J'adorerais faire quelque chose avec mon organisation caritative en Afrique. »
Le visage de Kimberly s'était adouci, ses yeux s'embuèrent, et pendant un instant, Ifemelu regretta d'être originaire d'Afrique. Qu'à cause d'elle, cette belle femme, avec ses dents si blanches et son abondante chevelure, soit obligée de chercher loin au fond d'elle-même une telle pitié, une telle impuissance. Elle lui sourit avec chaleur, espérant que Kimberly se sentirait réconfortée.
« Je vais recevoir encore une personne, et je vous donnerai ma réponse, mais je pense vraiment que vous correspondez à ce que nous cherchons. »
dit Kimberly en reconduisant Guinika et Ifemelu à la porte d'entrée.
« Merci, »
dit Ifemelu. « Je serai très heureuse de travailler pour vous. »
Le lendemain, Guinika appela et laissa un message d'une voix abattue. « Ifem, je suis vraiment désolée. Kimberly a engagé quelqu'un d'autre, mais elle a dit qu'elle te gardait en tête. Quelque chose va bientôt marcher, ne t'inquiète pas trop. Je t'appellerai plus tard. »
Ifemelu aurait voulu jeter le téléphone par la fenêtre.
Gardait en tête. Pourquoi Guinika prenait-elle la peine de répéter une expression aussi vide? Gardait en tête.
L'automne était avancé. Les ramures des arbres avaient des formes d'andouillés. Les feuilles mortes entraient dans l'appartement et elle était en retard pour son loyer. Les chèques de ses colocataires étaient posés sur la table de la cuisine, l'un sur l'autre, tous roses et festonnés de fleurs. Il lui semblait inutilement décoratif d'avoir des chèques fleuris en Amérique. Cela ôtait son caractère sérieux à un chèque. Il y avait une note à côté des chèques. « Ifemelu, nous avons presque une semaine de retard pour le loyer. » Remplir un chèque viderait son compte en banque. Sa mère lui avait donné un petit pot de menthol atum la veille de son départ de Lagos en lui disant « Mets-le dans tes bagages, tu l'auras quand il fera froid. » Elle le chercha dans sa valise, l'ouvrit et le renifla, en frotta un peu sous son nez. L'odeur lui donna envie de pleurer. Le répondeur clignotait, mais elle ne s'en occupa pas, sachant qu'elle entendrait une nouvelle variante du message de tante Uju.
« Est-ce que tu as eu des réponses? As-tu essayé le McDonald's et le Burger King à côté de chez toi? Ils ne passent pas d'annonce, mais peut-être embauchent-ils. Je ne peux rien t'envoyer avant le mois prochain. Mon compte en banque est vide, lui aussi. Franchement, être interne en médecine est un boulot d'esclave. »
Des journaux étaient étalés sur le sol, des offres d'emploi cerclées de rouge. Elle en ramassa un et le feuilleta, examinant des annonces qu'elle avait déjà lues. Le mot « escorte » accrocha encore une fois son regard. Guinika lui avait dit « Oublie cette histoire d'escorte. Ils disent que ce n'est pas de la prostitution, mais c'en est. Et le pire est que tu ne touches qu'un quart de ce que tu gagnes, parce que l'agence garde le reste. Je connais une fille qui l'a fait en première année. » Ifemelu lut l'annonce et faillit à nouveau appeler, mais elle n'en fit rien parce qu'elle espérait que le dernier entretien auquel elle s'était rendue, pour une place de serveuse dans un petit restaurant qui ne payait pas de salaire, seulement des pourboires, serait positif. Ils avaient dit qu'ils l'appelleraient en fin de journée s'ils l'engageaient. Elle attendit jusque très tard dans la soirée, mais ils n'appelèrent pas. Puis le chien d'Elena mangea son bacon. Elle avait tenu une tranche de bacon au chaud dans une serviette en papier, l'avait posée sur la table et s'était tournée pour ouvrir le réfrigérateur. Le chien avala le bacon et la serviette. Elle contempla l'endroit où s'était trouvé son bacon, puis regarda le chien à l'air satisfait, et toutes les frustrations de sa vie bouillonnèrent dans sa tête. Un chien avait mangé son bacon. Un chien avait mangé son bacon alors qu'elle était sans travail. « Ton chien vient de manger mon bacon !» dit-elle à Elena à l'autre bout de la table, qui découpait une banane en rondelles qu'elle laissait tomber dans son bol de céréales. « Tu détestes mon chien !»« Tu devrais mieux le dresser, il ne devrait pas manger la nourriture posée sur la table de cuisine. »« Ne t'avise pas de tuer mon chien avec ton vaudou !»«
Quoi ?»«
Je plaisante !» dit Elena. Elle avait un petit sourire narquois. Son chien remuait la queue et Ifemelu sentit de l'acide couler dans ses veines. Elle s'avança vers Elena, la main levée, prête à l'abattre sur le visage d'Elena, puis se reprit, s'arrêta, fit demi-tour et monta dans sa chambre. Elle s'assit sur son lit et ramena ses genoux contre sa poitrine, bouleversée par sa propre réaction, par la rapidité avec laquelle sa fureur s'était déclenchée. En bas, Elena hurlait au téléphone. «
Je te jure, La salope vient d'essayer de me frapper !»
Ifemelu avait eu envie de gifler sa colocataire, non parce qu'un chien baveux avait mangé son bacon, mais parce qu'elle était en conflit avec le monde entier et se réveillait tous les matins meurtrie, imaginant une troupe de gens sans visage et hostiles. Elle était terrifiée à la pensée d'être incapable d'envisager le lendemain. Lorsque ses parents appelèrent et laissèrent un message, elle le conserva, craignant d'entendre leur voix pour la dernière fois. Être là, à l'étranger, sans savoir quand elle pourrait revenir chez elle, c'était regarder l'amour se transformer en angoisse. Si elle appelait l'amie de sa mère, tante Bunmi, et que le téléphone sonnait indéfiniment sans réponse, elle était prise de panique, redoutant que son père soit mort et que tante Bunmi n'ose pas le lui annoncer. Un peu plus tard, Allison frappa à sa porte.
« Ifemelu, je voulais juste te rappeler que ton chèque n'est pas sur la table. Nous sommes vraiment en retard. »
« Je sais, je suis en train de le faire. » Elle était couchée à plat ventre sur son lit. Elle ne voulait pas être la colocataire qui avait des problèmes de loyer. Elle ne supportait pas que ce soit Guinika qui ait payé sa note d'épicerie la semaine précédente. Elle entendait la voix furieuse de Jackie en bas.
« Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Nous ne sommes pas ses foutus parents ?»
Elle sortit son chéquier. Avant de remplir le chèque, elle appela tante Uju et demanda à parler à Dike. Puis, réconfortée par sa candeur, elle téléphona à l'entraîneur de tennis.
« Quand puis-je commencer à travailler ?» dit-elle.
« Vous voulez venir tout de suite ?»«
D'accord, »
dit-elle. Elle se rasa les aisselles, retrouva le rouge à lèvres qu'elle n'avait pas utilisé depuis le jour où elle avait quitté Lagos, dont la plus grande partie avait barbouillé le cou d'Obinze à l'aéroport. Que se passerait-il avec l'entraîneur de tennis ? Il avait dit « massage », mais son attitude, son ton, était profondément suggestif. Peut-être était-il un de ces blancs dont elle avait entendu parler, avec des manies bizarres, qui voulaient que les femmes promènent une plume sur leur dos ou urinent sur eux. Elle pouvait certainement faire ça, uriner sur un homme pour 100 $. L'idée l'amusa, et elle eut un petit sourire ironique. Quoi qu'il arrive, elle allait se présenter sous son meilleur jour. Elle lui signifierait clairement qu'il y avait des limites qu'elle ne franchirait pas. Elle dirait, dès le début, « Si vous espérez coucher avec moi, je ne peux rien pour vous. » Ou peut-être le dirait-elle avec plus de délicatesse, de manière plus suggestive. « Je ne voudrais pas aller trop loin. » Mais peut-être se laissait-elle entraîner par son imagination, peut-être avait-il seulement envie d'un massage. Quand elle arriva chez lui, il l'accueillit avec brusquerie. « Montez, » dit-il. Et il la conduisit dans sa chambre, dépourvue de meubles à l'exception d'un lit et d'un grand tableau au mur représentant une boîte de soupe. Il lui proposa quelque chose à boire, d'un ton indifférent qui laissait entendre qu'il s'attendait à la voir refuser, puis il retira sa chemise et s'allongea sur le lit. N'y avait-il aucun préliminaire ? Elle aurait voulu qu'il fasse les choses un peu plus lentement. Elle-même ne dit rien. « Venez ici, » dit-il. « J'ai besoin qu'on me réchauffe. » Elle aurait dû partir sur le champ. L'équilibre des forces penchait en faveur de l'homme, et cela depuis qu'elle avait franchi le seuil de sa maison. Elle devait partir. Elle se leva.
« Je ne peux pas faire l'amour !» dit-elle d'une voix perçante, tremblante. « Je ne peux pas faire l'amour avec vous !»
répéta-t-elle.
« Oh non, ce n'est pas ce que j'attends de vous »
dit-il trop rapidement. Elle se dirigea lentement vers la porte, se demandant s'il l'avait fermée à clé, puis elle se demanda s'il avait une arme. « Venez ici et allongez-vous, » dit-il. « Réchauffez-moi. Je vous toucherai à peine, rien qui puisse vous embarrasser. J'ai seulement besoin d'un peu de contact humain pour me détendre. » Il y avait, dans son ton et son attitude, une totale assurance. Elle s'avoua vaincue. Tout était tellement sordide qu'elle soit là avec un inconnu qui savait déjà qu'elle resterait. Il savait qu'elle resterait parce qu'elle était venue. Elle était là, déjà salie. Elle ôta ses chaussures et grimpa dans son lit. Elle ne voulait pas être là. Elle ne voulait pas que son doigt s'affaire entre ses jambes. Elle ne voulait pas entendre ses grognements et ses soupirs dans son oreille. Et pourtant, elle sentit son corps réagir, envahi d'une écœurante humidité. Ensuite, elle resta immobile, lovée, anéantie. Il ne l'avait pas forcée. Elle était venue de son plein gré. Elle était restée couchée sur le lit
et quand il lui avait pris la main pour la placer entre ses jambes, elle avait courbé et bougé ses doigts. À présent, même après s'être lavé les mains, serrant le mince billet de $100 qu'il lui avait donné, ses doigts lui semblaient encore poisseux. Il ne lui appartenait plus.
« Peux-tu venir 2 fois par semaine ? Je paierai le billet de train. »
dit-il en s'étirant, la congédiant. Il voulait la voir partir. Elle ne dit rien.
« Ferme la porte !»
dit-il, et il lui tourna le dos. Elle marcha jusqu'à la gare, le pas lourd et lent, l'esprit embourbé, et assise près de la fenêtre, elle se mit à pleurer. Elle avait l'impression d'être une petite balle perdue, seule et abandonnée. Le monde était si vaste, et elle était tellement minuscule, tellement insignifiante, à se débattre sans but. De retour dans son appartement, elle se lava les mains avec de l'eau si chaude qu'elle se brûla les doigts et qu'une petite ampoule apparut sur son pouce. Elle ôta tous ses vêtements et les roula en une boule qu'elle jeta dans un coin, restant un moment à les fixer. Elle ne les porterait plus jamais, elle n'y toucherait jamais plus. Elle resta assise nue sur son lit et contempla sa vie dans cette petite chambre à la moquette moisie, le billet de $100 sur la table, son corps soulevé de dégoût. Elle n'aurait jamais dû aller là-bas. Elle aurait dû se sauver. Elle avait envie de prendre une douche, de se nettoyer à la brosse, mais la seule pensée d'effleurer son corps lui était insupportable. Et elle enfila, avec précaution, sa chemise de nuit, s'efforçant de se toucher le moins possible. Elle imagina qu'elle faisait ses valises, trouvait le moyen d'acheter un billet d'avion et retournait à Lagos. Elle se pelotonna sur son lit et pleura. Elle aurait aimé plonger en elle-même pour arracher le souvenir de ce qui était arrivé. Son répondeur clignotait. C'était sans doute Obinze. Elle ne pouvait supporter de penser à lui. Elle songea à appeler Guinika. Finalement, elle appela tante Uju.
« Je suis allée travailler pour un homme en banlieue aujourd'hui. Il m'a payé $100. »«
Hein ? C'est très bien. Mais il faut que tu continues à chercher quelque chose de permanent. » Je viens de me rendre compte que je dois souscrire une assurance santé pour Dike, parce que celle que propose ce nouvel hôpital dans le Massachusetts, c'est ridicule. Elle ne le couvre pas. Je n'en reviens pas de la somme à payer.
Tu ne me demandes pas ce que j'ai fait, tante ? Tu ne me demandes pas ce que j'ai fait avant que cet homme me paye $100 ?
Dit Femelu. Elle était submergée par la colère, une rage qui s'infiltrait jusque dans ses doigts, qui se mirent à trembler.
« Qu'est-ce que tu as fait ?»
demanda tante Uju calmement. Ifemelu raccrocha. Elle appuya sur le bouton du répondeur. Le premier message était de sa mère, qui parlait vite pour réduire le coût de l'appel.
« Ifem, comment vas-tu ? Nous appelons pour avoir de tes nouvelles. Nous n'en avons pas eu depuis longtemps. S'il te plaît, envoie un message. Nous allons bien. Que Dieu te bénisse !»
Puis la voix d'Obinze, ses mots flottant dans l'air, dans sa tête. « Je t'aime, Ifem », disait-il, de cette voix qui, subitement, était si lointaine, appartenait à un autre temps et à un autre lieu. Elle resta allongée sur le lit, figée. Elle ne pouvait pas dormir, elle ne pouvait pas détourner ses pensées. Elle se mit à envisager de tuer l'entraîneur de tennis. Elle lui frapperait la tête à coups répétés avec une hache. Elle plongerait un couteau dans sa poitrine musclée. Il vivait seul, il y avait probablement d'autres femmes qui venaient dans sa chambre écarter leurs jambes sous son gros doigt court, à l'ongle rongé. Personne ne saurait laquelle d'entre elles l'avait fait. Elle laisserait le couteau enfoncé dans sa poitrine et chercherait dans ses tiroirs son rouleau de billets de $100 pour payer son loyer et ses frais de scolarité. Il neigea cette nuit-là, sa première neige, et le matin elle contempla le monde à travers sa fenêtre, les voitures en stationnement, informes, bosselée sous la couche de neige. Elle était vidée, apathique. Elle flottait dans un univers où l'obscurité descendait trop tôt et où les passants marchaient engoncés dans leurs manteaux, estompés par l'absence de lumière. Les jours s'écoulaient les uns à la suite des autres. L'air vif devenait glacial, douloureux à respirer. Obinze appelait souvent, mais elle ne décrochait pas le téléphone. Elle effaçait ses messages sans écouter sa voix, ne lisait pas ses emails, sentant qu'elle s'enfonçait de plus en plus vite, incapable de se ressaisir. Le matin, elle se réveillait dans un état de torpeur, accablée de tristesse, effrayée par la longueur de la journée qui l'attendait. Tout s'était épaissi.
Elle était engloutie, perdue dans un brouillard visqueux, enveloppé de néant. Entre elle et ce qu'elle aurait dû ressentir, il y avait une faille. Rien ne la touchait. Elle aurait voulu éprouver quelque chose, mais elle ne savait plus comment faire. Elle en avait perdu le souvenir, la capacité. Elle se réveillait parfois en battant l'air, impuissante, et devant elle, derrière elle, autour d'elle, tout n'était que désespoir. Elle savait qu'il ne servait à rien d'être en colère, là, de rester en vie, mais elle n'avait pas l'énergie suffisante pour réfléchir concrètement à une manière de se tuer. Elle restait couchée et lisait des livres sans penser à rien. Elle oubliait de manger ou attendait jusqu'à minuit lorsque ses colocataires étaient dans leur chambre avant de réchauffer sa nourriture, et elle laissait les assiettes sales sous son lit jusqu'à ce que la moisissure envahisse les restes de riz et de haricots. Souvent, au milieu de son repas ou de sa lecture, elle était submergée par une envie de pleurer et les larmes venaient, les sanglots lui arrachaient la gorge. Elle avait débranché son téléphone. Elle n'allait plus en cours. Ses journées s'étaient figées dans le silence et la neige. Allison tapait à grands coups à sa porte. « Tu es là ? Le téléphone ! Elle dit que c'est urgent, putain ! Je sais que tu es là ! Je t'ai entendu tirer la chasse d'eau il y a une minute !» Le bruit sourd des coups, comme si Allison tapait du plat de la main plutôt qu'avec son poing, déconcerta Ifemelu. « Elle ne veut pas ouvrir !» disait Allison. Et au moment où Ifemelu pensait qu'elle était partie, les coups reprirent. Elle se leva de son lit où elle était restée couchée, lisant deux livres à la fois, chapitre par chapitre, et se dirigea d'un pas pesant vers la porte. Elle aurait voulu marcher rapidement, normalement, mais elle en était incapable. Ses pieds étaient devenus des escargots. Elle tira le verrou. L'air furieux, Allison lui fourra brutalement le téléphone dans la main. « Merci, » dit-elle mollement, et dans un murmure, elle ajouta « Désolée. » Même parler, extraire des mots de sa gorge, ouvrir la bouche, l'épuisait. « Allô ?» dit-elle. « Ifem, que se passe-t-il ? Que t'arrive-t-il ? » demanda Guinica. « Rien, » dit-elle. « Je me suis fait un sang d'encre. Heureusement, j'ai trouvé le numéro de ta colocataire. Obinze m'a appelé, il est fou d'inquiétude. » dit Guinica. Même tante Ujo a téléphoné pour savoir si je t'avais vu. J'étais occupée, dit vaguement Ifemelu. Il y eut un silence. Le ton de Guinica s'adoucit. Ifem, je suis là. Tu le sais, hein? Ifemelu eut envie de raccrocher et de regagner son lit. Oui. J'ai de bonnes nouvelles. Kimberly a appelé pour me demander ton numéro de téléphone. La babysitter qu'elle avait choisie vient de partir. Elle veut t'engager. Elle voudrait que tu commences lundi. Elle a dit que c'est toi qu'elle voulait depuis le début, mais que Laura l'avait persuadée d'engager l'autre personne. Ça y est, Ifem, tu as du travail. Payé en liquide, sous la table. Ifemsko, c'est formidable. Elle te paye $250 par semaine, plus que l'ancienne babysitter. Et au noir. Kimberly est une femme merveilleuse. Je viendrai te chercher demain pour t'emmener chez elle. Ifemelu resta muette, s'efforçant de comprendre. Les mots mettaient si longtemps à prendre un sens. Le lendemain, Guinica frappa à coups redoublés à la porte, avant qu'Ifemelu finisse par ouvrir, et aperçoive Allison sur le palier qui la regardait d'un air curieux. « Nous sommes déjà en retard. Habille-toi » dit Guinica d'un ton ferme et autoritaire, sans laisser place à la contestation. Ifemelu enfila un jean. Elle sentait le regard de Guinica posé sur elle. Dans la voiture, la musique rock préférée de Guinica remplit le silence qui régnait entre elles. Elle roulait dans Lancaster Avenue, s'apprêtant à quitter West Philadelphia avec ses bâtiments aux fenêtres condamnées et ses papiers gras éparpillés, pour pénétrer dans l'impeccable banlieue aux avenues bordées d'arbres de la Main Line, quand Guinica dit « Je crois que tu souffres de dépression ». Ifemelu secoua la tête et se retourna vers la vitre. La dépression était ce qui arrivait aux Américains, avec leur besoin d'auto-justification qui transformait tout en maladie. Elle ne souffrait pas de dépression, elle était simplement un peu fatiguée, un peu apathique. « Je ne suis pas déprimée », dit-elle. Des années plus tard, elle écrirait un post dans son blog là-dessus. au sujet des Noirs non-américains qui souffrent de maladies dont ils refusent de connaître le nom. Une Congolaise écrivit un long commentaire en réponse. Elle avait quitté Kinshasa pour la Virginie et quelques mois après le début de son premier semestre à l'université, elle avait commencé à avoir des étourdissements le matin, le cœur battant la chamade, l'estomac retourné par des nausées, des fourmillements dans les doigts. Elle était allée consulter un médecin. Et bien qu'elle ait coché « oui » à tous les symptômes inscrits sur la carte que le médecin lui avait donnée, elle avait refusé le diagnostic de crise de panique parce que seuls les Américains étaient sujets à des crises de panique. Personne à Kinshasa n'avait de crise de panique. Non parce qu'on les appelait autrement, mais parce qu'on ne les appelait pas du tout. Les choses existaient-elles uniquement quand elles avaient un nom ? Ifem, c'est quelque chose que beaucoup de gens traversent. Et je sais qu'il n'a pas été facile pour toi de t'accoutumer à un nouveau pays tout en restant sans travail. Nous ne parlons pas de choses comme la dépression au Nigeria, mais cela existe. Tu devrais consulter quelqu'un au centre médical. Il y a toujours des thérapeutes. Ifemelu garda le visage appuyé contre la vitre. Et elle était à nouveau envahie par cette envie irrépressible de pleurer, et elle prit une longue aspiration, espérant que ça passerait. Elle aurait dû parler à Guinika de l'entraîneur de tennis. Elle aurait dû prendre le train jusqu'à l'appartement de Guinika ce jour-là. Mais il était trop tard maintenant. Son dégoût d'elle-même s'était ancré en elle. Elle ne parviendrait jamais à formuler les mots permettant de raconter son histoire.
« Guinika, » dit-elle. « Merci. »
Sa voix était rauque. Les larmes lui montèrent aux yeux, incontrôlables. Guinika s'arrêta dans une station-service, lui tendit un Kleenex et attendit que ses sanglots s'apaisent avant de redémarrer et de reprendre le chemin de la maison de Kimberly.